With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Carotte. Fin novembre 2019, Bilal Hassani a sorti sa toute première collaboration mode. Il a choisi de créer une collection non genrée avec la marque Jennifer, aujourd'hui renommée Don't Call Me Jennifer. L'enseigne souhaite désormais véhiculer un message anti-idées reçues. Alors effectivement, quoi de mieux pour ce faire que de choisir Bilal Hassani ? Youtubeur et musicien, il fait beaucoup réagir en se présentant sur scène en robe et en portant des perruques. Avant lui, c'est l'une de ses meilleures amies, que tu connais peut-être grâce à sa chaîne YouTube Léna Situation, qui avait elle-même sorti sa propre collection chez Jennifer. Alors à l'occasion de cet événement qui marque un nouveau tournant dans la carrière de Bilal, j'ai voulu lui poser des questions sur son rapport à la mode et en savoir plus sur les coulisses de la dite collection. Salut Bilal.
Salut.
Ça va ?
Très bien et toi ?
Ça va très bien. Ce soir, on se rencontre puisque tu sors ta première collection chez Jennifer,
ouais.
Qui est donc une collection non genrée. Tu as toi-même un style androgyne et les codes femmes-hommes, clairement, c'est pas trop son délire.
Non.
Et du coup, je me demandais, je voulais en savoir un peu plus sur ton rapport à la mode et sur les étapes un peu qui t'ont amené justement à t'en foutre un peu des codes de la mode. En fait, quand est-ce que t'as commencé un petit peu à mélanger les genres et à vraiment trouver ton style ?
Initialement, je faisais pas grand-chose. J'optais pour le très simple parce que j'étais très intimidée par les boutiques de vêtements. Je n'osais pas aller faire du shopping. Ce n'était pas une activité que j'aimais. C'était une activité qui me rendait un peu anxieux pour moi. J'adorais aider ma mère à faire du shopping. Ça, c'était vraiment quelque chose, ouais, que j'admirais vraiment parce que je trouvais ça cool et il y avait plein d'options et je trouvais ça plus sympa. Maintenant, pour moi, ça me faisait peur parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais du mal à apprécier les vêtements pour mecs et pourquoi j'aimais bien les vêtements pour femmes. Et donc c'était assez compliqué d'aller dans une boutique. Petit à petit, j'ai commencé à m'assumer plus à travers les années et les expériences de vie que j'ai pu vivre et que j'ai pu rencontrer. Et j'ai commencé à m'imaginer des looks un petit peu tout seul en assemblant des pièces qui n'allaient pas du tout bien ensemble. Et donc je m'habillais très mal, mais j'aimais bien ce que je portais. Et c'est là que j'ai commencé à un petit peu m'en foutre des codes et tout, parce que je voyais que dans tous les cas, que je porte un truc fou, que je porte pas un truc fou, les gens, ils allaient avoir un avis assez... généralement très très péjoratif sur moi, parce que c'est comme ça que ça se passe, surtout à l'école, parce que les gens ils aiment bien, c'est pas très rigolo. Et donc c'est là que j'ai commencé à un petit peu moins prêter attention à ce genre de choses. Ensuite j'ai commencé un petit peu à jouer encore plus avec mon style quand j'ai commencé à porter des perruques, ouais. Et là où avant c'était vraiment juste une serviette que je mettais sur ma tête pour m'imaginer des cheveux longs, là c'était vraiment genre des cheveux et des fois je portais une paire de talons. Après je me suis dit non, en fait j'aime pas les talons, c'est pas trop mon truc. Et donc j'ai vraiment exploré, je suis allé voir un peu partout et ça m'a vraiment emmené jusqu'à ce point aujourd'hui où je peux créer une collection de vêtements en sachant vraiment ce que j'aime et ce que j'aime pas et ce qui me manque en tout cas pour moi dans mon dressing. Je me suis dit voilà, on va le créer dans cette collection.
Ok, et du coup, t'as pu commencer en soi à décider un peu de comment tu t'habilles assez jeune.
Ouais.
T'as pas trop eu ta mère qui te disait habille-toi comme ci ou comme ça, si t'avais plus la liberté de...
Non, c'était... Mon style était pas très restrictif. C'était pas... Enfin, maman me m'arrêtait pas trop. Elle m'a toujours plutôt bien soutenue dans un peu ma quête identitaire. C'était assez loufoque. Il y avait une période où je mettais du crayon sur le ras de mes cils.
Bref, wow.
J'ai eu plein de phases. Elle m'a laissé explorer jusqu'à ce que je trouve celle d'aujourd'hui. Et je trouve que ça va. Je m'en sors plutôt bien.
Ok. Et du coup, tu fais pas mal d'événements, cérémonies, concerts, tout ça. Et t'as toujours des tenues absolument dingues. Et ouais. Du coup, je me demandais, est-ce que t'interviens dans le processus décisif de ta tenue et tout, à quelle échelle t'interviens vraiment dedans ?
J'interviens complètement, enfin à 100% dans tout ce que je porte. Des fois, ça peut être juste un mood board où je vais imaginer des coupes et des couleurs que je veux. Mais des fois, ça va être beaucoup plus précis où je vais avoir genre une sorte de flash. Par exemple, la robe que j'ai portée sur le carpet des Energy Music Awards, je l'ai vue dans ma tête. Et donc, je l'ai dessinée très très mal et je l'ai envoyé au designer qui ensuite m'a fait un très très bon croquis, donc Dylan Parienti, qui a ensuite fait fabriquer la robe. Et c'est cool d'avoir une équipe, même mon coiffeur par exemple, Gabi, quand je vais lui dire moi j'aimerais trop avoir des cheveux comme ça et j'imagine cette couleur là et cette coiffure là, etc., et qu'il fait exactement ce que j'ai imaginé. Je sais que je suis très chanceux parce que j'ai des idées, ouais, mais j'ai pas les capacités de faire tout ce qui fait sur moi, donc je remercie toujours vraiment beaucoup mon équipe créative qui autour de moi arrive à réaliser les choses, mais ça reste quand même moi la source de la plupart des idées.
Ok, trop bien. Et justement, en parlant un peu des événements, des tapis rouges et tout, il y a une époque, enfin pas si lointaine, où vraiment c'était surtout donc les actrices, les meufs et tout qui mettaient vraiment le paquet, et les hommes étaient plus un peu plus sobres et tout.
Surtout ici, surtout en France.
Ouais, et là il y en a vraiment de plus en plus, enfin ça se fait petit à petit, mais il y en a de plus en plus des hommes qui osent, qui mélangent les genres et tout. Et je me demande si justement toi, enfin j'imagine que ça t'a fait rêver aussi les tapis rouges et tout, et est-ce que c'est justement les modèles qui te manquaient un peu quand t'étais jeune et que t'avais hâte de voir ?
Oui, moi j'ai... Si ça m'a pris du temps, malgré le fait que j'ai quand même réussi à me trouver assez vite, ça m'a pris quand même pas mal de temps de trouver mon identité, parce que j'avais aucun modèle sur lequel me voir en fait, et imaginer ce que je pouvais faire. En fait, j'avais l'impression que monter sur un carpet à Cannes avec une robe, c'était quelque chose qui était, j'avais l'impression que c'était illégal, tellement je l'avais jamais vu et que ça avait l'air vraiment interdit. Donc trouver la force en moi de le faire, en fait les gens, même moi je pense que les gens autour de moi s'en rendent même pas compte à quel point ça demande vraiment du courage dans ma tête, parce que même pour moi, malgré le fait que dans mon image et dans ce que je projette de moi, il y a cette chose un petit peu « Waouh, il est fort et il est trop confiant et il arrive à faire ses trucs et c'est hyper courageux et tout. » Mais malgré tout, dans ma tête, il y a quand même un stress et j'ai toujours un peu peur à chaque fois que je fais quelque chose, parce que j'ai l'impression de briser une règle un petit peu ou de faire mal ce que je devrais faire. Et c'est toujours assez stressant, malgré le fait que je fais rien de mal et il n'y a rien d'interdit dans le fait de porter une robe sur un carpet quand je suis un mec. Mais malgré tout, ça devient... Il y a toujours cette question qui se pose dans ma tête, et toujours avant j'ai toujours un peu de sueur froide en me disant oh mon dieu, mais ça va être un cauchemar, j'aurais jamais dû faire ça et tout et tout. Et quand je le fais, généralement ça se passe bien et c'est rassurant après. Mais voilà, en tout cas là par exemple, le dernier carpet que j'ai fait, c'était plutôt une réussite, je suis très content. Enfin, toute la soirée j'ai porté 4 looks différents et tout, j'ai
c'était
vraiment
une réussite.
Merci beaucoup,
vraiment très stylé. Et du coup, est-ce que t'as quand même des modèles qui t'ont aidé justement à casser ces codes là que ce soit toute époque confondue, en fait des modèles de style?
Carrément, moi je trouve que quand même il y avait des artistes plus internationaux, si on peut dire ça comme ça, qui m'ont marqué très jeune, comme David Bowie, Prince, Michael Jackson, même Mick Jagger, ou une Janis Joplin qui allait avoir une allure de motard genre et toutes ces dégaines un peu particulières me faisaient toujours un peu rêver. Et en fait il y a ce truc chez ces icônes, chez ces légendes que j'ai même pas encore trouvé moi, c'est cette allure et cette aura qu'ils dégageaient, qui était très c'est moi, et ça avait l'air très unapologétique et très genre je sais pas, ça faisait vraiment limite peur, et c'était impressionnant de les voir comme ça. Et moi j'ai encore un peu les chocottes, genre quand j'ose faire quelque chose, et j'ai toujours un petit peu peur, donc j'arrive pas encore à dégager ce truc de genre I don't care, I'm here. Ouais. Mais j'essaye en tout cas de dégager ça le plus possible, parce que ça aide, et c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup admiré chez ces gens-là.
Mais plus t'as peur, plus ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire en gros.
Ouais, à peu près.
Du coup, justement, aussi par rapport à ce qu'on voit de plus en plus de mode unisexe, non-genré et tout ça, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu deux tendances. Il y a un peu le côté où il y a des collections qui sortent très minimalistes, sobres, oversize et tout. Il y a un côté un peu qui uniformise tout le monde.
Ouais.
Et de l'autre côté, il y a celui où justement c'est plus l'extravagance qui ressort et tout. Tu penses que c'est quoi un peu, enfin entre guillemets, qui va triompher? Ce serait quoi, à ton avis, l'avenir de la mode dans tout ce qui est non-genré, etc.?
Pour l'instant, en tout cas, dans ce que j'ai vu, dans tout ce qui était assez unisexe et non-genré en termes de mode, parce que j'ai un petit peu étudié quand même le sujet, ce qu'il y avait aussi déjà proposé dans la mode avant de faire ma collection à moi. Ce que j'ai beaucoup vu, c'était cet aspect un petit peu très uniformisé, assez oversize, très simple, sobre, pour que en fait c'était limite genre un blank canvas pour que ça marche genre sur les deux, où il y allait avoir une chemise à carreaux qui allait tenir un petit peu comme une tunique pour la meuf et pour une chemise pour le mec. Ce que j'aimerais, et en tout cas c'est ce que je commence aussi à voir dans d'autres choses qui se passent dans la mode, c'est cet aspect un petit peu moins de réfléchir à comment est-ce que ça peut marcher pour un homme et une femme, et d'arrêter de penser à homme et femme, mais plutôt homme, femme, virgule, trois petits points, et de voir la bigger picture, et d'imaginer vraiment juste des jolies pièces. Voilà.
Wow. Du coup, pour en revenir justement à ta collection chez Jennifer, est-ce que donc c'est Jennifer qui est venue te chercher, ou est-ce que c'est toi qui cherchais une marque avec qui t'associer justement pour faire cette collection?
Alors, j'étais dans la rue en train de marcher et on m'a bandé les yeux, emmené dans une camionnette.
Wow.
J'étais emmené dans une cave et il y avait une grande affiche avec écrit DCM Jennifer. Ils m'ont dit tu feras une collection avec nous, Villa La Sani. Tu vois? Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que...
J'adore cette histoire.
Ce qui s'est passé, c'est que vraiment la vraie histoire, c'est que j'ai une pote à moi qui a fait une collection avec DCM, qui s'appelle Léna, et c'est une de mes meilleures potes. Et quand j'avais vu sa collection, j'étais vraiment super fier, et elle a crushé tous les records, elle a fait des trucs qui se feront jamais. Moi, je pense vraiment pas que c'est quelque chose de normal et de naturel ce qui s'est passé avec sa collection. C'était assez impressionnant, on était tous très fiers d'elle. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, si seulement j'avais les couilles de faire genre une collection, je suis désolé pour le terme, mais si seulement j'avais vraiment l'audace de faire une collection de fringues, mais j'oserais jamais. Et donc en fait, ils sont venus vers moi et ils m'ont dit, est-ce que tu serais chaud pour faire un sac? Et j'ai fait ouais, et après on a fait toute une collection. Et donc en fait, il fallait juste me mettre dedans. Ils sont vraiment venus un petit peu vers moi en mode, genre, est-ce que tu serais chaud pour essayer de faire quelque chose? Et j'étais en mode, et donc j'ai appelé Léna en premier, j'ai fait Léna, il serait chaud pour que j'essaie de faire un sac, je crois. Et elle m'a dit bah complètement, fonce et tout. Et j'ai dit ok, et je suis arrivé au premier rendez-vous, j'ai dit bah ce serait sympa aussi de faire ça et de faire ça, et on est passé de ça à une trentaine de pièces avec des chaussettes incluses, donc il y a de tout finalement.
Et du coup, c'était quoi ton état préféré de la création de la collection?
Je pense que le fait de voir les premiers protos arriver et avoir la première idée, j'étais limite ému en fait quand j'ai vu les pièces arriver pour la première fois, parce que les voir en vrai, et quand c'était plus des croquis, des dessins, des idées, des carrés de couleurs, c'est devenu un peu plus vrai.
Ouais.
Et c'était très émotif comme moment, mais un beau moment.
Vu que ça t'a plu apparemment, tu penses que tu vas continuer un petit peu dans la mode ?
Complètement. Moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, faire cette collection, dans le sens où j'ai pu explorer un petit peu avec ma créativité d'une manière complètement différente. Là où j'ai commencé avec la musique, avec le piano, le chant, la danse. J'ai ensuite fait YouTube. Là, j'ai pu explorer complètement différemment. Et il y avait ce travail vraiment de recherche et cette envie de créer des fringues. Et à chaque fois, j'essayais de m'arrêter. Quand tu commençais trop à penser à comment ça va tenir sur une meuf et comment ça va tenir sur un mec. Là où j'ai trouvé vraiment c'est peut-être un peu égoïste, mais le bon filon, je crois, pour faire cette collection, c'est que je les ai imaginés sur moi. Mm-hmm. Parce que finalement, je dis pas que je représente la déesse des genres ou je sais pas quoi, mais c'est juste en fait que des fois j'ai un flow qui va être très discret et très minimaliste, et des fois je vais go all out avec beaucoup d'extravagance, et c'est là que je me suis rendu compte que même si je suis pas du tout about that binaire life, j'ai une petite binarité dans mon style en fait.
Ouais.
Et c'est pour ça que la collection s'appelle Two Spirits, parce que ça évoque un petit peu les deux facettes de ma personnalité, de mon style que j'ai découvert pendant le processus de création, qui était genre ce Villal très qui veut qu'on le voit et qui aime que ça brille et qui aime avoir la perruque et le make-up et des plateformes comme ça et tout et tout, et à l'opposé, le Villal qui va sortir voir ses potes, qui va enregistrer une chanson en studio, ou quand je vais juste passer une après-midi tranquille, là où je veux vraiment qu'on me voit moins, mais que je veux quand même être un petit peu stylish, mais pas trop en faire. Mmh. Et donc, c'est là que je me suis dit, ok, là, j'ai le bon filon, je peux faire quelque chose autour de ça et créer des pièces, en fait, entre deux. Et pas une pièce extravagante et une pièce pas du tout extravagante, mais de faire des pièces qui puissent marcher dans les deux moods. Et c'est là que j'avais l'impression de pouvoir créer quelque chose d'un petit peu plus universel. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai su que j'étais sur, on va dire, la bonne voie pour cette collection, en tout cas.
Trop bien. Et du coup, bon, même si tu dis que des fois, t'as un petit peu peur, t'es quand même un peu en train de devenir une icône de style. Donc du coup, vu que Mademoiselle, c'est un magazine du coup qui s'adresse aux 18-25 ans, voire parfois un peu plus jeune, c'est du coup la période de ta vie où tu te cherches un peu et voilà, tu deviens adulte, etc. Et du coup, qu'est-ce que ce serait le conseil que tu aurais donné à une jeune meuf comme ça pour trouver et surtout affirmer son style ?
Je pense qu'il faut se libérer de toute crainte. Il ne faut pas avoir peur de se ridiculiser. Parce que c'est souvent ça, ce qui se passe. On se dit, ah non, mais je peux pas porter ça, je serais ridicule. Mais en fait, il faut faire les phases, il faut vivre les phases. Toutes les phases de la vie qui peuvent arriver, qui sont des fois des phases et qui aussi des fois peuvent te permettre de t'installer dans un style. Genre moi, j'avais ma période un peu goth, genre.
Ah ouais ?
Ouais, ça a duré 4 mois et demi.
C'était avec quel âge ?
J'avais 10 ans et demi.
Ah ouais.
J'étais très petit. J'écoutais beaucoup d'Evanescence, beaucoup de Green Day, All American Reject, tout ça. C'était un peu mon mood.
Ouais.
Et donc, je mettais du charcoal et tout, genre, sous des yeux. J'essayais de faire des jigs et tout. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon bail.
Ouais.
Mais je suis passé par là. Et c'est encore, ça a encore une empreinte, en fait, sur moi et sur la personne que je suis aujourd'hui. Mmh. Et c'est ça qui rend le moi d'aujourd'hui comme il est. Parce que je suis passée par toutes ces petites périodes et ces petites phases de style où je me disais, ah là, c'est bon, c'est ça. Et en fait, non, finalement, non. Et donc, je pense qu'il faut se libérer un petit peu de toutes ces petites craintes et de se dire, vas-y, je vais essayer. Au pire, ça marche pas, mais c'est pas la fin du monde. C'est juste des fringues. C'est juste un style. Et voilà, je pense qu'il faut un peu se décomplexer, même si c'est compliqué. Et il y a un moment où on peut trouver sa voix et son flow.
Ok. Wow. Ben merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, c'était très intéressant. J'espère bientôt voir tes prochaines collections de mode, j'attends avec impatience.
Maybe.
Et voilà, c'est la fin de cette interview, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que tu as toi-même pensé de la collection de Bilal. Tu trouveras plus d'infos là-dessus dans un article consacré que tu trouveras dans les notes de ce podcast. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ses prochains projets mode, puisqu'il n'a apparemment pas l'intention de s'arrêter là. Merci d'avoir écouté, salut.